Radio 1, le rendez-vous de l'info locale, il est midi. Tout de suite, vous découvrez les titres avec Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Benny et bonjour à tous. Le port de pêche de Papeete prépare sa métamorphose. Un stock de première urgence humanitaire au Fénois. Ses moyens sont destinés à apporter une réponse humanitaire d'urgence dans le Pacifique Sud. Les détails dans quelques instants. Et puis coronavirus, quel test de dépistage la Polynésie va-t-elle utiliser? Les éléments de réponse dans cette édition.
Le port de pêche prépare sa métamorphose.
Le ministre en charge de l'économie bleue, Tevaro Fritsch, le ministre de l'équipement, René Temeharo, et le ministre et le directeur de TNAD, Rémi Grouzel, ont participé à une réunion hier au port de pêche, une réunion destinée à présenter aux professionnels le projet de réaménagement du port de pêche de Papeete. Il reste des études à mener, il faudra construire tout en maintenant l'exploitation. Tout cela devrait prendre bien sûr au moins 6 ans. Écoutez justement le directeur des ressources marines, Cédric Ponsonnet.
Le premier problème qu'on a, c'est déjà que en fait, les fonctions n'ont pas été optimisées. On a par exemple un quai qui sert à la fois pour ravitailler et pour débarquer, ce qui pose des problèmes de croisement de bateaux. On a aussi un problème de périmètre, c'est-à-dire qu'on est tout autour, on a peu de possibilités en fait d'extension. Et le dernier problème, c'est qu'en fait, on doit réaménager un port qui fonctionne. C'est-à-dire que plutôt que de construire quelque chose sur un endroit tout neuf, là, on va devoir faire des travaux alors que les gens vont continuer leur activité. Donc en fait, c'est beaucoup de contraintes qui font que le réaménagement a pris beaucoup de temps à aboutir à un scénario consensuel.
Aujourd'hui, le port de pêche n'est pas optimisé en termes de fonctionnement, d'où la nécessité d'un réaménagement profond et d'une concertation face aux nombreuses questions posées par certains professionnels présents. Tevaro Fritsch, le vice-président, a justement rappelé que le rôle du pays est de doter la filière d'infrastructures.
On travaille avec les professionnels, mais il est important que ce soit le privé qui soit porteur des projets. Le pays vient accompagner, aménage, fait les bâtiments éventuellement, mais en réponse à des projets économiquement viables. C'est ça qui est important. C'est vrai que le port a été construit, le port de pêche, petit bout par petit bout, tout doucement, et les utilisateurs ont dû s'adapter finalement à des bâtiments qui ont préexisté. Le fait d'avoir une nouvelle répartition fonctionnelle de ce port va certainement changer aussi la façon du coup de fonctionner de ces entreprises. C'est le message que je leur ai adressé. Il faut aussi, c'est pour ça que je tenais à les voir tous là, on les a vus séparément. Il faut aussi que chacun adapte sa façon de travailler.
Parmi les nouveautés du projet, de nouveaux ateliers mécaniques dans le hangar côté Papeete, l'utilisation de la zone sud qui sera remblayée pour faire place à un quai spécifique et une zone dédiée à la vente directe qui permettra aux particuliers de ne pas rentrer dans l'enceinte du port pour faire leurs achats.
Un stock de première urgence humanitaire au Fénois.
Le haut commissaire Dominique Sorin était à Sainte-Amélie hier pour la présentation des matériels de première urgence du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Karl Lies, président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge qui en assure la gestion courante, était également présent. La Polynésie française accueille ainsi l'un des 4 sites du CDSC. Après l'Île-de-France, la Guadeloupe ou encore la Nouvelle-Calédonie, ces moyens sont destinés à apporter une réponse humanitaire d'urgence dans le Pacifique Sud.
Ça a été donc voulu par le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, financé par l'État, pour prépositionner du matériel. Donc c'est destiné au territoire français, ça peut être utilisé si on avait un cyclone ici ou en Polynésie, mais c'est surtout utilisé aussi dans les territoires des pays voisins. Partout c'est géré par la Croix-Rouge, hein. Donc c'est vraiment un outil très important dans le cadre ici des accords régionaux, parce qu'on pourra intervenir dans toute la zone, dans le cadre des accords que nous avons avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelle les accords France.
Il s'agit de matériel d'urgence non périssable, tentes, bâches, kits de cuisine ou encore kits d'outils, ainsi qu'une station mobile d'eau de mer. Ce matériel d'urgence représente une valeur totale de 36 millions de francs.
Et la chambre de l'instruction maintient la saisie pénale du comte d'Oscar Temeharo.
Le 23 juin dernier, Oscar Temeharo et son conseil, maître Claude Gérard, avaient contesté la saisie des 11,5 millions de francs sur le compte bancaire du maire de Fa devant la chambre de l'instruction du palais de justice de Papeete. Et cette saisie était intervenue dans le cadre de l'enquête préliminaire sur la prise en charge par la commune de Fa des frais de défense d'Oscar Temeharo dans l'affaire Radio Tefana. Le conseil du leader indépendantiste avait estimé que la mesure était alors injustifiée, vexatoire, voire même excessive. La décision était attendue hier matin. Et visiblement, la chambre de l'instruction n'a pas tenu compte des moyens exposés par maître Gérard puisque le recours a été rejeté.
Pour moi, c'est une très grande déception parce que je pense qu'il y avait tout à fait la place pour une mesure plus adaptée. Moi, dans mon esprit, je pensais que la chambre d'instruction redonnerait la main levée de la saisie et redonnerait en même temps qu'une instruction soit faite pour que M. Temaru soit entendu contradictoirement sur les reproches qui lui sont faits. C'était pour moi la voie normale que devait emprunter la justice.
Oscar Temaru peut à présent se pourvoir en cassation, une procédure qui s'annonce longue et sans issue selon Maître Gérard.
Coronavirus, quel test de dépistage la Polynésie va-t-elle utiliser ?
On en parle depuis des semaines. Des laboratoires internationaux ont développé de nouveaux types de dépistage basés par exemple sur des échantillons de sang. Et pour autant, pour protéger le phénomène, les autorités misent sur les tests PCR, les mêmes qui sont réalisés depuis le début de la crise grâce à un prélèvement au fond du nez et de la gorge, assez inconfortable, assez cher, mais des tests très fiables qui permettent de déceler le virus tôt dans la maladie. On écoute justement le docteur Mallet, chargé de la surveillance de l'épidémie en direction de la santé.
La veille sanitaire va utiliser uniquement les tests de détection de l'ARN du virus grâce à la technique PCR, ces fameux tests PCR, qui sont réalisés sur un prélèvement nasopharyngé. C'est là où on trouve le plus de virus et donc c'est ce test-là qui permet le meilleur diagnostic. Ce sont des tests qui sont fiables et validés et qui sont maintenant à peu près disponibles et donc on va pouvoir assurer leur approvisionnement pour les semaines et les mois à venir.
Jacques Rénal avait tout de même évoqué l'arrivée prochaine de tests salivaires, même technique que les tests PCR, mais avec un prélèvement beaucoup plus rapide et moins désagréable. Ils nécessitent toutefois beaucoup moins de matériel et peuvent donc être déployés facilement dans les îles. L'évaluation du procédé est en cours, mais vu sa moindre fiabilité, il ne remplacera pas les analyses menées à l'Institut Mallardé et à Taone.
Le fameux test salivaire dont on a parlé recherche également, lui, de l'ARN du virus. Donc c'est aussi une technique PCR, mais une technique PCR simplifiée, faite sur un prélèvement salivaire. L'hiver, donc c'est plus simple, mais par contre du coup, il perd beaucoup en sensibilité, et donc il risque de ne pas détecter un certain nombre de cas. Donc c'est un test intéressant, mais ce n'est pas le test de référence, il n'est pas aussi précis. Donc il peut éventuellement être utilisé ponctuellement en attente de la PCR classique, dans par exemple certaines îles isolées, et donc c'est ce que nous envisageons.
Les tests sanguins, eux, existent bel et bien au Fénois. La clinique Cardella, par exemple, a commencé à proposer ses analyses. Il faut dire que ces tests sérologiques détectent la présence d'anticorps qui n'apparaissent chez les malades qu'à partir du 14e jour après le début des signes. Aucun intérêt pour la vie sanitaire.
Dans l'ensemble, les tests rapides ne répondent pas aux besoins de diagnostic et de surveillance sanitaire. C'est-à-dire que ce sont des tests soit qui sont pas assez fiables, soit qui détectent la maladie trop tardivement. Les tests sérologiques, par exemple, ne détectent la maladie qu'après le passage du virus, quand les anticorps sont produits. C'est à partir du 14e jour, c'est-à-dire en gros quand il n'y a plus de signes. À titre individuel, les tests sérologiques n'ont d'intérêt par curiosité si on cherche à savoir si on a été infecté dans le temps, ce qui a priori n'est pas le cas ici pour la très grande majorité des gens.
Des propos recueillis par Charles Irénée.
Bilan démographique 2019, la population polynésienne a augmenté de 0,4%.
0,4% effectivement, c'est l'accroissement naturel de la population en Polynésie française en 2019, indique l'ISPF ce matin, soit la différence entre les 3450 naissances et les 1551 décès recensés au Fénois. Cet accroissement naturel est en baisse ces dernières années en raison de la santé, la baisse de la natalité, de l'allongement de la durée de vie. À cela s'ajoute le solde migratoire déficitaire de 1100 personnes par an depuis 2012. L'estimation de la population au 31 décembre 2019 est donc de 278 400 personnes, soit 1000 personnes supplémentaires par rapport à 2018.
Marama Vahirua et ses aiglans, réchaussent les crampons.
Effectivement, c'est officiel, Marama Vahirua est de retour à Nice, en Côte d'Azur. Hier, il a pris part à son tout premier entraînement post-confinement de l'équipe des U19 des aiglons en tant qu'adjoint de l'entraîneur d'Emer Sefaé. Un retour presque à la maison pour l'ancien attaquant qui avait fait les beaux jours du club durant 3 saisons après être passé par la Fédération Tahitienne de Football en tant que directeur technique pour la présidence de l'AS Dragon. Marama Vahirua va s'atteler à former la nouvelle génération du club niçois. Il sera aussi chargé d'animer des séances spéciales avec tous les attaquants du centre. Mon objectif, c'est de donner de la vie, de la joie et surtout de l'amour du football, confie Marama dans une vidéo publiée par l'OGC Nice. Maintenant, c'est boulot, a conclu Marama. Voilà, on lui souhaite en tout cas une excellente chance et une très bonne saison avec l'OGC Nice. S'achève ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.